Bonjour et bienvenue au One Club, le podcast BD bimensuel qui fait pas de chichi.
Pas mal, bravo.
Voilà. Thio avait des envies fécales pour l'introduction depuis quelques épisodes. Je n'ai pas voulu le contredire tout en restant plus subtil, fin et dans le bon goût. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous revoir cette quinzaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission de nos 2 ans. J'espère que nous aussi on l'a apprécié parce qu'on ne sait pas encore si ça s'est bien passé.
Je pense que ça a été haletant.
Je suis avec Thio qui m'accompagne maintenant depuis plus de 2 ans pour ses aventures podcastiques avec joie et bonheur.
Deux ans de vie commune, c'est beau quand même. Oh,
c'est beau, oui. Et on va avoir un programme assez sympathique où on va vous parler de beaucoup de choses. On va commencer par
c'est un programme
Joseph Le Borgne.
Rien d'intéressant, que des trucs bidons.
Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça va. Donc, on commence par Joseph Le Borgne, Le Temps de Vivre, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Century, machin chose, enfin 1969, Blue Estate, Peace to V, The Boys numéro 11, et une splash page pour Thio sur Bloc 109. Mais qu'est-ce donc que cela? Il nous le dira tout à l'heure. On finira avec un HS, on vous parlera du site chez Albert qui accueille le podcast Antipop qui est fort sympathique. On va démarrer aussi avec un petit courrier des lecteurs. Je devais le faire la semaine dernière, il y a 15 jours. Ouais, je suis trop une buse, je l'ai zappé. Déjà, je voulais faire un mea culpa parce que je me suis trompé en disant que le logo d'image avait changé. Tony le trouvait m'a gentiment corrigé et effectivement, il ne l'a pas changé. C'est moi qui ai mélangé 40 infos différentes avec le fait que Topco avait quitté Image, donc avait changé de logo forcément vu qu'ils n'étaient plus chez Image. Mais Image n'a jamais changé de logo et ils l'ont toujours gardé tout au long de leur vie. Un grand merci à tous nos fidèles auditeurs qui, dont certains étaient là donc pour le podcast des 2 ans, qui nous ont laissé plein de commentaires très sympathiques pour accueillir avec joie, bonheur et plaisir la nouvelle formule.
Ils ont énormément souffert d'ailleurs.
On devrait encore faire quelques changements en accueillant le mois prochain un nouveau intervenant. Tu le découvres, c'est ça?
Non mais attends, tu fais des castings, je suis même pas là, quoi. Tu recrutes n'importe qui. C'est qui encore ce gars-là?
Ah, tu verras, je te laisse la surprise.
Ah, je suis sûr en plus qu'il a un prénom pourri, quoi.
Ouais, c'est ça. Totalement. Tu viens de te griller, je crois. et enfin, un petit commentaire sur iTunes. Je vous le rappelle, les commentaires iTunes, c'est bien, ça nous fait monter dans le classement, ça nous rend un peu plus visible. Et comme c'est un petit peu le répertoire de podcast le plus utilisé du monde. C'est donc Sébastien Lebon qui nous fait un commentaire en mettant 5 étoiles. J'aime 5 étoiles. Avec un titre, je pense, dans l'esprit du podcast.
Hein. Ouais, mais en fait, il y a multisens là-dedans.
Ouais, on ne sait pas trop. Le titre, c'est Une bien belle paire. Sur un ton décontracté, de bons copains, bon, en gros, il dit qu'on est bien, qu'on partage nos bons ou mauvais goûts en matière de BD, qu'on ne fait pas de chichi, pas d'esbrouf, tout ce qu'on a à dire est dit, qu'on a quelques silences, même si on s'améliore parce que c'est pas de la radio. C'est vrai qu'on essaie de s'améliorer sur les silences. Hein. Je fais gaffe au montage aussi à en couper un paquet. Donc, on parle un peu de tout, qu'on sort des trucs un peu exotiques. Oui, effectivement, j'aime bien avoir des trucs exotiques et rigolos. Au fil de nos envies, de notre budget ou des conseils qu'on reçoit. Et que c'est un podcast sympathique qui fait du bien quand on aime une bonne BD. Il nous souhaite une longue vie. Et ben, nous, ça nous fait très plaisir parce que ça nous donne un petit peu de visibilité. Et peut-être qu'un jour, on sera sur la première page d'iTunes. Non ?
Mais si en fait on donne plein, nous on fait des vrais faux avis là, on pourrait monter sur la pente.
On va se faire griller, je pense, et tu comprends, moi Apple, je les aime.
Et donc, on commence?
Allez, avec, on démarre.
Directeur, tu voulais en parler d'autres peut-être? Non, non.
On démarre.
T'as imprimé 15 pages pour rien en fait.
Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai répondu à plein de gens sur le site directement. Et puis voilà, mais je pourrais les lire. Hein, c'est pas... Parce que je sais que sur un écran, ça te fait mal à tes yeux de vieux. Je te passerai les trucs où tu pourras les lire. Hein,
c'est content. Non, parce qu'en fait, ça fait une demi-heure qu'on attend pour commencer. Parce qu'il m'a dit, ouais, tu vois, je fais le courrier des lecteurs.
Ouais, mais il fallait que je trie, voir s'il y avait des questions intelligentes et tout.
Ouais, bien 15 pages. Et puis donc là, il me fait, c'est bon, c'est fini. Là, j'arrête. Allez. Donc on commence. Alors, Joseph Le Borgne. Hein.
Laisse le temps au jingle.
Jingle.
Il était temps. Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne.
Joseph Le Borgne, une BD bien ancienne de Fred et Alexis. Je voulais en parler pour une raison simple au départ, c'est-à-dire que mon grand-père, qui s'appelait Joseph Le Borgne, est décédé il y a peu, et je me suis dit que ce serait une bonne façon de lui faire un petit hommage, même si cette BD n'a pas grand-chose à voir avec mon grand-père en dehors du nom. C'est une bande dessinée de 1975. Putain, on n'était pas nés.
C'est pas né.
Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas si vieux que ça, finalement. Chez Dargo, par Fred et Alexis. Alexis. Alors, Fred, on le connaît. Fred, c'est le monsieur qui dessine et écrit Philémon. Et Alexis, c'est un gars qui a pas mal travaillé avec Monsieur Gottlieb sur certaines séries. Donc, on est vraiment dans du old school et du bien sympa. Oui, c'est dédicacé par Fred. C'est pour mon papa.
92.
Ouais.
Ça en fait des bornes dans cette histoire.
Ouais. Cette bande dessinée, c'est de l'humour fantastique. Nous suivons les aventures d'un professeur et de son acolyte, Timoléon. Alors, c'est pas le premier tome de la série, hein. C'est une série. Qui ont une machine à voyager dans le temps.
Parce qu'ils veulent faire fortune avec. En
fait. Voilà. D'ailleurs, le sous-titre de la BD, c'est « Ils voyagent dans le temps pour de l'argent ». Sauf qu'à un moment, Joseph Le Borgne, le neveu du professeur, réplique et découvre l'existence de cette machine et décide de l'utiliser pour faire des sous parce qu'il est trafiquant d'armes et il veut vendre des armes dans le passé à Attila.
Et là.
Et cela, c'est le drame. Tout part en vrille, car les personnages, bien sûr, sont complètement débiles et exagérés. Qu'as-tu pensé rapidement du scénario pour démarrer et quel mot as-tu utilisé ?
Si je récupère ma feuille que tu m'as volée, je peux te le dire. Moi, je trouve que c'était un peu de la SF pour le scénario. De la SF humoristique, mais de la SF, quoi. C'est ouais. Une machine à voyager dans le temps, on se balade. On n'a pas grand-chose qui est expliqué au niveau de la machine elle-même, mais...
Ça devait être dans les tomes précédents, j'imagine.
Peut-être, voilà. Mais c'est assez sympa. Après, au niveau humour, c'est clair que de se retrouver avec un Attila qui a besoin d'un souffleur d'injures...
Oui, et qui est végétarien aussi. Qui est végétarien. Il y a un gag très très drôle là-dessus. Moi, j'ai mis que c'était absurde parce que c'est vraiment un humour complètement débile. Ils partent sur quelques situations globalement à peu près réalistes, mais vraiment à peu près. D'ailleurs, la chute est pas très fantastique parce qu'elle tombe un peu à plat. Mais c'est rigolo. On suit ces personnages qui subissent les événements plus qu'autre chose. Ils veulent vendre des armes à feu, mais ils oublient les munitions. C'est très très rigolo comme genre. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Le dessin, Kyo.
Oula, tu me demandes des choses. Rétro, bah, c'est normal vu la date hein, pour moi. Mais c'est un rétro qui m'a fait penser à bah, toute mon enfance quand je lisais le journal de Spirou. Quoi. T'as cette espèce de gros tramage avec des couleurs qui sont clac, clac, clac. C'est
surtout les couleurs moi, que je trouve rétro. Parce que le dessin, je pense que tu enlèves les couleurs ou tu refais les couleurs
tu
modernes.
Les couleurs, ouais, mais...
quand même, moi, j'ai mis américain. Il y a une grande influence américaine dans le style graphique, dans la façon dont sont traités les personnages. D'ailleurs, Joseph Le Borgne, j'ai l'impression que c'est une caricature de Jacques Balutin. Je sais pas si.
Ouais.
Je sais pas. Enfin, il me fait penser à un acteur, je pense à Jacques Balutin, je me plante peut-être, mais.
Non, mais c'est vrai.
Il y a un côté réaliste, mais dynamique et exagéré, comme on peut l'avoir dans les comics et dans les BD américaines en général, que j'ai trouvé vraiment très bien foutu. Et c'est vrai, bon, les couleurs font un peu old school, hein, ça a un peu vieilli. La mise en page est assez simple, on se retrouve encore avec ces bonnes vieilles BD comme on faisait à l'ancienne avec des flèches pour dire quelle case lire. Maintenant, on essaye d'éviter de plus en plus dans la BD.
Ah bon ?
Ouais. Mais c'est un beau bouquin, bien sympathique. Globalement,
tu recommandes. Je me suis bien régalé quoi. Ça se lit vite. Maintenant, je sais même pas si c'est encore disponible quoi.
Bah oui, parce que là, l'édition que j'ai date de 85. Ouh.
Ouais, c'est-à-dire, je suis pas certain qu'on en trouve encore quoi.
Ouais, ça pourrait valoir le coup de faire un petit intégral de ces aventures parce que je trouve ça bien rigolo, bien fun. Et puis c'est bien dessiné quoi. C'est bien raconté.
Moi, ça me fait penser un petit peu voilà comme tu m'as fait découvrir Valérian et Laureline quoi.
Ouais.
C'est un petit peu dans le même style pour moi, je trouve.
D'accord.
Intéressant donc, hein, parce que j'ai aimé quand même Valérian Lorly.
Ouais, bah, donc une bonne BD chez Dargo, si vous arrivez à la trouver.
Faites-vous plaisir.
Je vous recommande, c'est une très bonne chose.
Dans les bacs.
Le temps de vivre, donc de Sarah et Piatchek.
Piatchek.
Piatchek. Il y a trop de Z et trop de et un seul S. Piatchek. Ouais, je sais pas. Voilà, Piatchek. C'est chez Futuro au prix de 20 €. C'est donc un bon polar, je dirais. Tu vois, on l'avait mis en quoi?
Nous les avons mis en polar intimiste.
Un polar intimiste. Donc on va suivre l'histoire donc de Seva et de Mona, qui sont deux personnes qui font partie de manière plus ou moins éloignée pour l'un des deux de la mafia, mais qui en fait quand même partie, parce que l'une c'est pour Mona c'est son mari, pour Seva lui il fait un peu homme de main, même s'il refuse maintenant de tuer.
Lui il est surtout stock, il gère un stock en fait, il a un entrepôt qui gère et qu'il loue.
Voilà, et donc du coup ça va être l'histoire justement d'un coup qui se monte pour récupérer de la thune, et les personnages vont chacun...
Pour récupérer l'amour, parce que quand même Mona et Seva s'aiment.
Oui, et donc en fait ce coup-là va leur permettre peut-être de gagner aussi leur liberté. Après, on ne va pas non plus trop en révéler, mais cette liberté-là, chacun veut la gagner à sa manière, quoi. Donc ça va être des multiples rebondissements, des trahisons, tout ça dans une ambiance quand même qui est assez violente, assez sombre, avec un graphisme donc qui est quand même dans le noir.
Assez sombre, parlons du dessin. Pour moi, le mot, c'était peinture. Parce que je trouve que le graphisme, on est vraiment dans quelque chose de très beau. Chaque illustration pourrait faire une jolie peinture, un joli truc à afficher. Bon, dans une pièce un peu déprimante, hein, genre la chambre des beaux-parents ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment superbe. Ton mot ?
C'était sombre.
Sombre, c'est sombre. Et puis il y a un parti pris graphique très très joli, des tentatives différentes. Il n'utilise pas toujours le même style, pas toujours la même technique dans ses dessins. Pourtant, ça se marie super bien.
Voilà, parfois on a un gaufrier, parfois il n'y en a pas.
Ça éclate dans tous les sens. Parfois il travaille en blanc sur noir. Il y a des collages. Franchement, le travail de Serra est superbe. Je ne connaissais pas très bien. Je crois que j'avais déjà lu un truc de lui, mais...
Moi, ça ne me dit rien du tout. Et c'est vrai que j'ai quand même bien apprécié, parce que ça... Il y a une ambiance qui se crée dès les premières pages, quoi. On est dans le polar, on est dans l'histoire quasiment immédiatement. Et puis ensuite, vont venir tous les autres personnages, quoi.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu utilises un mot pour le dessin, c'est le mot que j'ai utilisé pour le scénario. J'ai dit que c'était sombre. J'ai trouvé que le scénario était vraiment dur, quoi. On sent que le chemin vers le bonheur, il va pas être facile, quoi. Qu'il va falloir se l'arracher, qu'il va y avoir des sacrifices et que ça va saigner.
Moi, le seul souci que je vois, c'est pour le scénar, j'ai mis un petit peu confus, quoi.
Ouais.
J'ai trouvé que ça manquait un peu de clarté. Il y a des moments où on n'a pas de découpage temporel, en fait. C'est qu'on passe d'une scène à l'autre quasiment. On passe d'une case à l'autre, mais en fait, on est passé d'une scène à l'autre sans qu'il y ait de coupure.
Ouais, il a pas voulu utiliser les à l'ancienne, le quelques jours plus tard.
Ouais, ou c'est déroulé un petit peu de temps, mais. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça manque un petit peu.
Découpage temporel de l'action n'est pas très très clair.
Et c'est un peu dommage, parce que je pense que ça aurait rendu le truc...
De le chapitrer peut-être plus, ouais, pour montrer...
Un petit peu comme dans Last Day of
American Crime,
où tu avais justement des petites pages, où tu avais une pleine page pour commencer un nouveau... soit un nouveau lieu, soit un nouveau temps, quoi. Mais c'est une très bonne histoire, avec des bons rebondissements, un bon polar... Après,
moi je dis que si on aime le polar et qu'on veut lire un polar noir bien écrit et bien dessiné, surtout bien raconté, ça vaut le coup.
Un one shot intéressant, quoi.
Voilà, bon one shot, c'est chez Futuro et tu as dit 20 €, c'est
20 euros, ouais. Beau bouquin, comme toujours chez Futuro, c'est quand même la classe, quoi. Je sais pas comment ils font pour faire des bouquins aussi classe.
Ils les vendent 20 €.
C'est ça, il faut payer pour avoir la classe.
La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Century 1969, enfin c'est Century tome 2, 1969, c'est le sous-titre, donc l'année.
De Alan Moore et Kevin O'Neill.
Voilà, c'est la suite de Century tome 1 qui se passait en 1910, où on suit toujours les aventures de Wilhelmina Harker, Alan Quarterman et Orlando. Des personnages qui sont censés vous dire quelque chose, car ce sont des personnages classiques. Alan Quarterman, vous le connaissez.
Orlando, le frère de Dalida.
Orlando, c'est un immortel qui vient de je ne sais quelle histoire.
Oh, ça va, c'était pour le sortir.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'était tentant. Et Wilhelmina Harker, qui était la femme de Jonathan Harker.
De Dracula.
De Dracula. Et on suit ces personnages-là, mais maintenant, on est passé de 1910 à 1969, et forcément, l'ambiance a beaucoup changé. Nos héros se posent toujours des questions pour essayer de trouver le gros méchant qui s'appelle, je ne sais plus comment il a un nom, c'est Udon, je crois.
Ado,
pardon. J'étais pas loin. Hein.
Ouais.
Pour retrouver...
t'avais les bonnes consonnes, mais pas les bonnes voyelles.
Voilà. Pour retrouver Ado, qui, en gros, essaierait de créer un antéchrist pour le XXe siècle. Et donc, il essaie de le retrouver pour l'empêcher d'agir. Sauf que les années 69, je veux dire... T'as plein de tentations pour faire autre chose derrière. C'était des bonnes années quand même. Ça donne envie. Hein. Tu vois, comme il le disait dans Austin Powers, une époque où on peut se droguer et baiser avec des tonnes de femmes sans craindre aucune maladie en n'utilisant aucune protection. Voilà.
On n'a jamais connu ça.
On n'a jamais couvert, connu ça.
Toujours.
Sans découvert. Le monde a bien changé depuis. On a dit que c'était du psycho-héros pour le genre. Parce qu'en gros, on a des personnages qui sont des archétypes super-héroïques, quand même, hein, vu que ce sont des archétypes de héros, remis dans le contexte de leur époque. Sauf que, 1969, quoi. Psycho.
Psycho, ouais. Ouais, vraiment psycho.
Totalement
hein.
Psycho. Orlando, lui, c'est un gars, il change de sexe régulièrement.
Tous les siècles, je crois.
Ouais, mais non, pas tous les siècles. Non, c'est... Mais il sait jamais quand il va changer, c'est aléatoire.
Il y a aussi la Lune, je crois, qui joue un rôle dedans.
Voilà, Alan Quarterman et Mina sont devenus immortels. On l'a appris en lisant les Black Dossiers.
Eh oui.
On y reviendra. Pour le dessin de Kevin O'Neill, quel a été ton mot ?
Psychotique.
Psychotique ? J'ai mis 70s. Ouais. J'ai trouvé que je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse s'adapter à cette époque-là. Je trouvais qu'il avait un style pour le victorien ou pour les années 10 qui collait très très bien. Et je ne m'attendais pas à ce que son style colle pour la fin des années 60. Quoi. Ce côté un peu psyché et ça passe super bien.
C'est très psyché. Quoi. Là, on est en plein 70s, il n'y a pas de doute.
Il y a quelques phases sous acide avec du plan astral et compagnie qui partent un peu en vrille. Et c'est très très très... Enfin, il est vraiment dans le ton. C'est bourré de pop culture, comme dame. On reviendra aussi sur toutes les références en parlant du scénario. Enfin, le style, moi, je l'ai trouvé très très joli. J'aime bien sa façon de dessiner. C'est bien raconté, une technique de narration souvent assez classique, avec des gaufriers simples, sauf quand on est sous psychotrope. Ouais. Là, alors, il se donne à cœur joie, ça part en vrille, il y a une double page psychédélique au possible.
Et là, vous pouvez vous amuser à essayer de chercher toutes les références, il y en a tout autour de la page. Hein.
Mais il y en a un paquet.
Par contre, un seul souci, c'est que c'est au niveau du dessin, les personnages principaux sont bien définis.
Ouais.
Et ensuite, tous les personnages secondaires se ressemblent beaucoup quand même.
T'as du mal à les différencier.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc le dessin, content. Le scénario.
Moi j'ai marqué référence.
Moi j'ai mis protéiforme.
Le mec il se la pète en utilisant des mots quoi.
Ouais. Alors, vas-y, référence.
Bah, référence, il y en a plein, il y a des clins d'œil, il y a plein de trucs. Dès la huitième page, on a Orlando qui nous cite Agricola. Alors là, forcément, c'est un mot qui passe comme une lettre à la poste, mais c'est...
C'est un jeu de société.
C'est ça, et c'est aussi le nom complet du fermier Gilles de Ham, qui est un personnage de Tolkien.
Moi, c'est une nouvelle référence que j'avais zappé. Voilà.
Vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez jamais. Hein. Mais c'est bourré de trucs dans le style. Quoi.
Des références, parce que c'est un monde alternatif au nôtre. Hein. On n'est pas dans nos années 69 de notre monde. Ils expliquent que, par exemple, le président des États-Unis, c'est un gars qu'on n'a jamais connu. Ils expliquent qu'il y a le groupe célèbre, c'est les Ruttles, qui sont une parodie des Beatles qui avait été faite par Graham Chapman des Monty Python, il me semble, qui était très très bien. D'ailleurs, c'est l'occasion de voir cette série, c'est très drôle. Et ils sont en lutte contre un groupe qui a un nom sorti du néant, je ne sais plus comment il s'appelle, et qui sont très visiblement une parodie des Rolling Stones. Il y a qu'à voir d'ailleurs, à un moment, il y a un concert.
Le personnage qui a les lèvres surdimensionnées.
Voilà, et puis on a un des personnages, quand il va faire sa chanson sur scène, c'est une réécriture de Sympathy for the Devil. Alors en français, en plus, ça fait bizarre, mais on est vraiment dans cette parodie-là. C'est bourré de références. Pour tout capter, je pense qu'il faut une culture énorme, et en plus une culture anglaise. Parce qu'on est vraiment en Angleterre. Quoi.
Et en plus, donc, eux, ils font référence à les Black Dossiers...
Alors,
deux ou trois fois dans le bouquin, on y fait référence. Et c'est un peu compliqué parce que c'est quoi les Black Dossiers ?
Bah, les Black Dossiers, on en a parlé quand on parlait de 1910, ce sont des histoires de la Ligue des Gentlemen qui ne sont pas parues en France. Pourquoi ? Pour des raisons de droit, parce que beaucoup des personnages sont tombés dans le domaine public en Angleterre et aux États-Unis, mais pas en France. Donc on n'a pas le droit de les citer, de les utiliser gratuitement. Donc l'éditeur ne veut pas prendre le risque financier de se lancer là-dedans, ce que je comprends tout à fait. Donc on ne peut pas profiter de ces histoires qui avaient l'air bien sympathiques et qui fait un lien apparemment entre les premiers épisodes de la Ligue
et les suivants
et les centuries qui nous manquent pas mal. Et moi je me sens effectivement un peu perdu. Moi, j'ai utilisé Protéiforme parce que je trouvais que le scénario avait plusieurs lignes de lecture. Il y avait tout le côté référentiel, qui était vraiment une ligne de lecture du hommage aux années 70, enfin, voilà, au début des années 70, tout ce côté référentiel. D'ailleurs, ils finissent en nous faisant 8 ans plus tard. On se retrouve en pleine époque punk, et là, tu vois que l'ambiance, elle a bien changé. Ouais. Donc, t'as un hommage aux années 70, ça baisse dans tous les sens, tout le monde prend des drogues, des filles à poil de partout, c'est la fête, c'est la joie, il y a des hippies dans... c'est très très fun. Des clins d'œil, des références populaires à une pop culture très riche, qui n'est pas forcément la nôtre. Il y a cette intrigue de tentative d'invocation de l'Antéchrist, qui est une intrigue principale. Parallèle où on suit un personnage et où apparemment il y a toute une histoire de prédiction de ce qui va se passer dans l'avenir, et je pense que le prochain tome se passera en 2009 vu que c'est ce qui est annoncé, et clôturera l'histoire parce que apparemment tous les plans de Ado vont jusqu'à 2009. C'est là qu'il veut essayer de faire venir son Antéchrist. Il y a aussi cette intrigue là et puis il y a aussi l'histoire de l'immortalité, mais je pense aussi que ce n'est pas que l'immortalité, c'est l'âge. La volonté de ne pas être vieux.
De vouloir être dans son temps.
Voilà. Mina, en fait, depuis qu'elle est immortelle, a toujours l'air jeune, sauf qu'elle est en 69, qu'elle a 90 ans, en vrai. Et donc, elle veut avoir l'air de son temps, et elle commence à utiliser des expressions genre « s'ébattre tu comprends ?» des expressions vraiment des années 69, à vouloir faire les expérimentations des années 69, à pas avoir, apparaître pour une vieille coincée. Donc à tenter les drogues, le sexe, sa fille et tout et compagnie dans tous les sens.
Mais elle est open quoi.
Mais elle le fait parce que elle a peur de sentir vieille. Et quand ses deux collègues se foutent un peu de sa gueule, mais gentiment, comme on se chambre entre potes, pour lui dire ouais bah ça va, comme tu te la joues à te la péter jeunisme, elle le prend très très mal. Et c'est un des points principaux de l'intrigue parce que c'est ce qui permet sa résolution.
Ouais, non, je suis d'accord avec ta critique et avec tout ce que tu envoies, mais c'est vrai que ça, moi je trouve que ça manque un peu de pas de pêche, mais ça manque un petit peu en fait de réflexion pour le lecteur, parce qu'on est, j'ai l'impression qu'on est vraiment placé en spectateur de l'action quoi, parce qu'en fait toutes les résolutions se font, mais parce que eux ils savent des choses que nous on sait pas.
Oui, mais
c'est un peu dommage.
Est-ce
parce que
ça vient pas du fait qu'on n'ait pas lu les Black Dossiers, peut-être ?
Ouais, mais là, franchement, moi, je me suis vraiment senti spectateur, quoi. Là, j'ai regardé un film et c'est même pas un film où tu peux essayer de deviner qui est le meurtrier, quoi. Tu suis. Parce qu'en fait, t'as des références que t'as pas, t'as des personnes que tu ne connais pas.
Moi, je pense que ça vient beaucoup de cette perte de tout un pan de l'histoire au milieu, quoi, qui est vraiment dommage.
Peut-être,
par contre, je l'ai trouvé quand même plus sympa que le précédent, où j'avais l'impression d'avoir une bande de personnages losers qui faisaient tous les mauvais choix.
Oui, là, c'est sûr qu'ils
sont
un peu plus pertinents.
Ils sont un peu plus pertinents, ils sont un peu moins... Mais il n'y a pas Carnacki, qui était le roi des losers dans les équipes précédentes, parce que lui est mort de vieillesse, forcément.
Et puis après, ils te sortent aussi des personnages, celui qui vient, le personnage qui se voyage dans le temps.
Oui,
il y en a qui tombent, tu sais pas d'où ils sortent quoi.
Bah voilà, mais la question c'est est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'on n'a pas eu les bons trucs. Alors en plus, bon, ils s'éclatent, il y a des références pseudo-sexuelles quand ils sont dans l'astral avec le monstre avec un œil au bout du sexe gigantesque. Enfin, ça part dans tous les délires. Enfin, on est dans les années 69, c'est.
70, hein.
Ouais. C'était le bon temps, hein. On connaîtra pas ça.
Jamais.
Blue Estate.
Oui, Blue Estate. What is Blue Estate?
What is Blue Estates? It's a comic book. Yeah.
Yeah, de chez Ankama.
T'as vu, je fais vachement bien,
avec
Victor.
Avec une couve qui m'a donné envie. Quatrième de couve qui m'a aussi donné envie et un prix à 13,90 qui donnait envie. Alors du
si
coup,
tout ça donne envie.
Voilà, je me suis lancé. C'est pas le petit label 13e rue qui m'a donné envie, par contre. Mais parce que je connais pas du tout 13e rue.
Bah non, on n'a pas de club.
C'est ça. Et donc du coup, voilà, c'est une histoire de pourquoi c'est sur moi qui me chope
des mecs avec des noms à coucher dehors, je ne sais pas.
Victor Kalvachev. Désolé hein, si je te prononce mal, mais bon. On est dans un polar violent, c'est dramatique, c'est tout ce qu'on peut imaginer, ça se trompe, ça se voilà, il y a plein de rebondissements, il y a plusieurs dessinateurs par contre. Alors là du coup, faut que j'arrive à vous les citer. Toby Cypress, Nathan Fox, Robert Vallée et Victor Kalvachev.
Le créateur.
Alors donc on va suivre l'histoire. Alors là du coup là je serais peut-être pas certain, tu vois. Moi je te dirais que c'est l'histoire en fait de Rachel.
Ouais.
Pour moi c'est l'histoire de Rachel en fait, c'est elle qui fait un petit peu le lien entre tous les personnages.
Ouais, c'est vrai.
Alors il y a beaucoup de rebondissements dans l'histoire parce qu'on
pas mal de personnages aussi.
Pas mal de personnages. On suit des trafiquants, des personnes pas nettes. Et
des
chacun
flics,
des flics,
des détectives
privés qui sont un peu losers. on va avoir de multiples rebondissements. On va faire des aussi beaucoup de flashbacks un peu à la Memento, mais
des références à séries télé hein.
Aussi. On revoit les personnages quand ils ont eu du succès parce que ça se passe à Hollywood. Et
déjà, on a dit que c'était un polar loser. Moi, ça m'a fait penser un peu au scénar de, enfin dans le genre, hein, au scénar un peu à la Guy Ritchie où tu as tous ces mecs qui sont des gros losers mais qui se la pètent caïd. C'est un peu ça. Hein.
C'était lequel le film? C'était Crime, Arnaque et Botanique, ouais. C'est lui, non?
Ouais. C'est ça.
Il est excellent, celui-là.
Ouais.
Bah, c'est vrai que tu retrouves un peu de ça, quoi, parce que du coup, tu te dis, ils sont pas bien organisés, quoi.
Ils sont pas organisés.
Ils sont pas organisés, en fait. Et du coup, ça se voit, et c'est n'importe quoi. Et pour l'instant, c'est un petit peu confus, parce que c'est le début, donc on a tous les personnages qui sont mis en place.
Mais on sait pas trop où va l'intrigue.
On sait pas où va l'intrigue, parce que ben, on a plusieurs histoires en parallèle. On sait qu'il y en a qui sont en train de se trahir les uns les autres. On sait que les flics sont sur le coup pour certains, mais pas pour d'autres.
Ah ouais, c'était mon mot, c'était balade. On est baladé complètement au niveau des trucs, mais on sait pas trop où on va, on sait pas trop ce que ça raconte. Moi, j'étais un peu largué hein, sur cette BD.
Ben, on revient un peu sur le temps de vivre, quoi. Pareil, un peu.
Ah,
un peu
encore plus là.
Ben plus dans le sens où il y a trop de personnages, il y a trop de choses, il y a trop de condensés en un bouquin.
Ouais.
C'est, je pense que ça peut être pas mal.
Les couves sont superbes.
Les couves sont splendides. Et par contre, les dessins sont.
C'est assez varié déjà, il y a plusieurs illustrateurs.
Voilà, c'est assez varié parce qu'il y a plusieurs illustrateurs. Mais.
Moi j'ai mis graphique parce qu'il y a quand même une patte graphique au niveau du mot, donc j'ai mis graphique. Il y a une patte graphique au niveau du dessin, très très esthétisante, très. On cherche pas le réalisme, on cherche une sorte de truc de dessin fun, péchu. Ça colle très bien avec le label hein, de. Comment, d'Ankama, c'est le. Comment il s'appelle? Blue Holster, je crois, un truc comme ça. C'est le label d'ailleurs qui éditait.
Hostile Holster,
voilà, c'est le label qui éditait, il me semble, Silence.
Ouais.
Qui n'aura pas de numéro 2.
Non, sérieux?
C'est sérieux.
Oh, c'est nul ça.
Voilà, ça n'a pas assez marché malheureusement. Mais ouais, on retrouve un peu cette teinte, ce ton. Et non, c'est bien foutu. Puis ça utilise beaucoup de mise en forme, moi, qui m'ont fait rigoler. Mais c'est vrai que. Voilà, graphiquement, je trouve ça génial, mais le scénario m'a un petit peu perdu.
Ben moi, ça m'a fait penser un peu à du 100 Bullets, par un moment.
Ouais, mais 100 Bullets, il y a toujours un avantage, c'est que chaque tome a une petite histoire indépendante. C'est-à-dire que tu as toujours un fil de l'intrigue que tu peux suivre, même si tu saisis pas tous les tenants et aboutissants ouais. De l'intrigue principale. Tu as quelque chose à quoi te rattacher. Là, tu sais pas trop. Toovy, une bande dessinée chez Dargo, scénarisée par Merwan et dessinée et mise en scène, c'est comme ça que c'est marqué, par Bertrand Gatignol. Pistouvi nous raconte l'histoire de Pistouvi, un petit renard qui vit avec une jeune fille dont j'ai oublié le prénom, car j'oublie toujours les prénoms des personnages, mais ça, ça n'a pas changé.
La honte.
Et qui a une particularité, ce petit renard, c'est qu'il ne doit pas approcher les oiseaux. Parce que s'il approche des oiseaux et qu'il leur parle, il se transforme, il y a des plumes qui commencent à pousser sur lui, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc il doit toujours rester loin des oiseaux pour ne pas comprendre ce qu'ils racontent les oiseaux. Il ne faut pas qu'il leur parle. Et Pistouvie et la petite fille vivent dans un arbre, et ils sont protégés par le vent, qui est une femme, dont est amoureuse un géant
sur
un tracteur. Je pense qu'on a résumé le scénario de cette bande dessinée que nous avons qualifiée d'un point de vue scénaristique de poétique enfantin. Même si le enfantin, je ne suis pas totalement d'accord avec... j'ai pas trouvé mieux comme mot que ce que tu as proposé, mais je ne suis pas totalement d'accord. Oui, c'est de la poésie totale. C'est beau, c'est mignon, c'est plein d'idées très très géniales. Par contre...
J'aurais dit mignonne, en fait,
ouais.
Plutôt que géniale. Comme
ouais,
idée.
Ah non, moi j'aime bien, je trouve les idées bien. Par contre, j'ai trouvé le scénario super abscon. Je sais pas ce que ça raconte.
Moi, mon mot pour le scénar, c'était bizarre, en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, du début à la fin, il y a pas de but. On commence à la première page, ils sont en train de chasser les oiseaux. Enfin, Pistouvie est en train de chasser les oiseaux. Et à la fin du livre, quand on referme la dernière page, on se dit ouais. Et point d'interrogation. Il sait pas qu'il s'est rien passé. Il s'est passé plein de choses, mais il y a pas eu d'histoire.
Il y a quand même eu un grand bouleversement qui annonce une suite quand même.
Oui, il y a un grand bouleversement, mais enfin, j'ai pas trouvé de but, quoi.
Je sais pas où ça mène. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu abscon parce que il y a un côté poétique, mais je dois être quelqu'un de pas sensible. J'ai eu des critiques sur le net, mais qui étaient dithyrambiques dans tous les sens, et j'ai été un petit peu largué par le scénario. Par contre, le dessin. Waouh!
Ben, moi, ça m'a fait penser à du Miyazaki, en fait.
Ouais, moi j'ai mis. Alors, mondial, j'ai mis dans le dessin, parce qu'on sent les influences mondialistes.
Ben, il y a un petit peu du manga, il y a.
Un petit peu du comics, un petit peu de tout.
Ça fait quand même penser à du Miyazaki, quand même, il faut beaucoup d'accès.
Il y a un côté Miyazaki, mais ça reste aussi européen. C'est vraiment un bon mélange. C'est très dynamique, c'est très bien raconté. C'est du noir et blanc avec niveau de gris, c'est très bien géré. C'est très beau. Franchement, il y a une mise en scène superbe. Moi, je trouve ça magnifique en termes de dessin.
C'est un ouvrage magnifique, mais le scénar m'a laissé sur ma faim. On attendra le prochain tome.
Ouais, ouais, pour savoir.
Ce qui se passe.
Pour savoir si on est passé à côté de quelque chose, parce que j'ai l'impression, l'ayant lu, que je suis passé à côté d'un truc.
Bon, on est deux, écoute.
Voilà.
Ça se trouve, on est peut-être les deux seuls en France.
Oui, parce que je te dis, les critiques, mais elles sont. Mais... exceptionnelles les critiques que j'ai pu lire à côté, et donc je me suis senti un peu con quand j'ai fini le bouquin, et j'ai fait, parce que je l'ai acheté pour ça, hein, pour les critiques que j'avais lues, notamment sur Beaudeuil, je me suis retrouvé, j'ai fait ah, ben ok,
bah, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu le commentaire sur iTunes, une belle paire de cons, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est pas d'accord, on n'a pas compris l'histoire.
Voilà, donc vous serez peut-être plus sensible que nous à cette poésie. En tout cas, bon, je pense que pour les dessins, ça vaut quand même le coup à regarder. Parce que c'est vrai que, waouh, il y a une classe graphique. Moi, je trouve ça génial. Mm. Mais bon, faut...
Le géant, je trouvais super bien fait, quoi.
Oui, oui, mais tout, le vent, c'est beau, quoi. Puis même le renard, la petite fille, les oiseaux qui ont des têtes toutes débiles, qui font blu, bla, blu, bla. Enfin, moi, ça me fait mourir de rire quand je vois...
Ils jouent Angry Birds.
Ça fait mourir de rire quand je vois la tête des trucs.
Les piaf, ils sont...
Ouais.
The Boys, enfin, le tome 11.
Enfin, pour qu'on vous en parle, parce que c'est le moment qui est sorti maintenant.
Parce que Wayne et Pierre, en fait, il me passe deux fois le tome, il me dit « Ouais, mais tu l'as pas lu ». Je le réouvre, je me dis « Merde, j'ai déjà lu ».
C'est parce que tu ne notes pas sur notre programme que tu as lu des bouquins. Hein,
ouais, en même temps, tu vois, tu veux que je te parle de The Boys, mais je sais même pas où t'as mis le livre. Voilà.
Eh bien...
Mais c'est pas grave, de toute façon, écoutez...
Je pourrais te faire une suggestion, mais...
Comme tout à l'heure pour les autres bouquins. Donc, The Boys, le petit Huggy, donc, bah, continue son apprentissage.
Alors, remplaçons un peu dans le contexte, peut-être, pour les gens qui découvrent The Boys là, maintenant.
Bah, là, c'est trop tard. C'est trop tard. On est au tome 11 maintenant.
Non, peut-être qu'on peut donner envie. En gros, le boy, c'est une équipe de mecs shootés pour être un peu plus forts, qui étudient ce que font les super-héros, qui dans cet univers-là sont
des blaireaux.
Sont tous des blaireaux, des malades, qui en gros a grand pouvoir, grande détresse mentale.
Les hamsters s'en souviennent.
Voilà. Et c'est trash, c'est gore, et on suit le petit Huggy qui est un mec normal qui découvre cette équipe qui est en place depuis quelque temps. Et là, on est bien avancé, et le petit Huggy sort avec
Avec une des sept.
Une des sept, une jeune fille. Les sept, c'est la grosse équipe, c'est la JLA de ce monde-là.
Voilà, donc il sort avec la plus jeune recrue des sept.
Voilà, qui a dû souffrir pour en arriver là.
Ça a été long.
Ouais, et dur.
Et dur. Et donc, Billy Butcher, en fait, Butcher, le chef de cette équipe qui enquête sur les super slips, s'aperçoit que... Bah, il a des photos comme quoi Petit Huggy en fait sort avec une des sept. Et là, du coup, il commence à douter de Petit Huggy. Il se dit, est-ce que Petit Huggy travaille pas pour American Void ? American Void, qui est la société qui dirige en fait tous les groupes de super-héros
et qui édite les produits dérivés, dont les comics.
Voilà. Donc en fait, c'est... et là, il se dit, mais si il est de l'autre côté,
je me suis fait enfler,
mais d'une force. Et ça lui plaît pas à Butcher. Butcher, il aime pas ça du tout.
Non, il n'aime pas se faire enfiler.
Ouais. Donc du coup, Butcher, il décide de placer Huggy sur une petite enquête. Il va aller voir une sorte de groupe de super-héros, mais de très très bas niveau, des super gentils, voilà.
Parce que eux, en fait, ils sont vraiment gentils.
Ah, eux, ils sont. Bah, eux, c'est le monde des bisounours, hein.
Oui.
C'est les super-héros bisounours. Ils sont trop gentils, trop adorables. C'est en fait des enfants de 5 ans d'âge mental.
Et, pas tous, mais...
Et Petit Huggy donc, se retrouve à enquêter sur eux et il se fait chier.
Ouais, il s'emmerde.
Parce qu'il ne se passe rien. Et donc, il dit, Butcher, laisse-moi rentrer. Non, 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 tu continues la surveillance et tout. Et sauf que là...
Il y a un nouveau qui arrive dans l'équipe.
Il y a un nouveau qui arrive dans cette équipe-là, qui est en fait un gars qui s'est fait virer d'une autre équipe plus grosse... et qui lui est un vrai super héros comme on les voit depuis le début dans The Boys, c'est-à-dire
une vraie enflure,
un mec pourri, et forcément avec ces gentils petits gars, ben, ça va pas bien se passer. Et Petit Huggy, ben, une nouvelle fois, parce que ça fait déjà la deuxième, prend le parti des super slips pour essayer qu'on limite la casse et qu'on évite de trop leur en mettre sur la gueule, quoi.
Au niveau du scénario, moi, j'ai trouvé que c'était à contre-pied. Voilà, Garth Ennis a vraiment été à contre-pied de ce qu'il fait d'habitude. Garth Ennis n'aime pas les histoires de super-héros parce qu'il trouve que c'est trop gentil, trop beau, trop mignon, que ça le gonfle. Et c'est pour ça qu'il a fait The Boys, où il s'amuse à démonter le mythe du super-héros du début à la fin. Mais là, je trouve qu'il a pris à contre-pied parce qu'on se rend compte que finalement, il les aime, hein, ces super-héros, quelque part, un peu... Sinon, il ne ferait pas des histoires qui en parlent aussi. Et quand on voit ce groupe, d'ailleurs, c'est le sous-titre du tome, c'est Les Innocents, et je pense que c'est ça, c'est ce qu'ils sont. Ils sont innocents, ils sont gentils, ils veulent faire le bien, ils veulent vraiment aider les gens avec leur pouvoir. Et ben, il arrive à les rendre attachants, débiles mais attachants. D'ailleurs, ils ne sont pas tous débiles, hein. Il n'y a qu'un ou deux personnages qui sont vraiment débiles dans le groupe. Il y en a un qui est un peu attardé, par exemple.
Ouais.
Puis ils ont des pouvoirs un peu pourris du cul, quand même.
Bah, ils ont des pouvoirs qui sont très limités, quoi. Sauver un chat d'un arbre, ça reste dans leurs possibilités, mais après, au-delà...
Et encore, ils ont du mal. Hein.
Et encore, ils ont du mal, ouais. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est les couvertures originales. Ouais. Sur Dog, donc, c'est Les Innocents, c'était en 4 parties. Hein. Et sur les 4 parties... alors, du coup, il y en a 2. Oui, ils sont innocents.
Oui.
Et là, tu te poses la question. Est-ce que finalement, les autres ne sont pas victimes aussi quelque part ?
Les autres personnages qui sont montrés sur les couvertures ?
Ouais, t'as un des sept et ensuite t'as une des activités d'un des sept.
Oui.
Et est-ce que là aussi, qui est l'innocent en fait dans la page, quoi ?
Enfin voilà, donc bon tome qui fait bien avancer l'intrigue en tout cas. Au niveau du dessin, on va y venir vite fait.
Juste qui fait bien avancer l'intrigue, oui, parce que pour la première fois au sein du groupe, même la crème,
oui, remet, pas d'accord avec Butcher.
Même la crème remet en cause les choix de Butcher.
La crème, un peu le statisticien de l'équipe.
Tom d'ailleurs, où le français et la môme sont totalement quasiment transparents.
Oui,
on les aperçoit, mais pas plus.
Ils sont pas très utiles. Le dessin.
Gala lui-même, là, j'ai vraiment. Enfin,
ça fait 20 fois. Idem.
Hein. Idem, non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? Je veux dire, Derek Robertson nous fait toujours un super taf.
Alors, il n'y a pas que lui, hein, qui a travaillé dessus, donc on a d'autres dessinateurs qui passent dessus. Il y a John McCree qui dessine et Kes Burns qui participe aussi. Donc,
mais bon, ça reste
toujours dans le même ton.
Ouais, ça reste dans le même ton, dans la même lignée. Il n'y a pas de gros changements.
Pas de surprise.
Ouais, au niveau du scénar, ben, on continue à avancer. Moi, j'aimerais bien quand même que ça. qu'on ait une grosse progression là, parce que
un gros truc dans les dents.
Ben parce que ça fait l'air de rien. Tu as eu le tome précédent, c'était l'histoire du français, de la môme et de la crème, les feuilles fausses histoires. Le 9, enfin le 8, c'était Érogasme.
Ouais.
Grosse avancée dans le scénar.
Ouais.
Le 9, ça a un petit peu continué parce qu'on avait les petites histoires de Huggy qui commençait à en connaître un peu plus sur les super slips. Mais là, ça fait deux tomes, il se passe un peu rien quand même.
Ouais, ouais, ouais. Là, j'attends de. Faut dire aussi, c'est des tomes courts. Hein.
Il faudrait que dans le 12, il se passe un truc, quoi.
Eh ben, on le saura bientôt parce qu'en fait, il est dans la bibliothèque et donc nous le lirons très prochainement.
Bah, sans doute dans 15 jours. Eh oui, petit bonhomme. Splotch! Page! Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de notre pays. On va étudier donc la formidable création de notre monde à nous, le bloc 109.
Ouais! Ouais, ouais, pareil qu'avant, c'était vraiment pas pareil.
Avant, c'était l'enfer. Avant, nous n'étions pas éduqués, les enfants. Aujourd'hui, grâce au bloc 109, enfin, nous sommes libres.
Et qu'est-ce qui se passait avant? Pareil qu'il y avait plein de méchants.
Alors avant, il y avait un vrai méchant qui s'appelait Hitler. Et heureusement, il a été assassiné en 1941.
Mais le monsieur qui l'a tué, il était méchant alors aussi, vu qu'il a tué quelqu'un?
On ne sait pas en fait qui a tué Hitler. Mais grâce à ça, l'Allemagne a pu de nouveau avoir un bon élan. Nous avons enfin réussi à combattre les méchants américains, à détruire les Anglais ainsi que les Canadiens. Et finalement, il ne nous reste plus que les communistes.
Ah oui, oui, ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé des trucs qui font boum sur les États-Unis et l'Angleterre.
Oui, des bombes nucléaires. Mais on n'a pas pu les utiliser contre les Russes.
Ah bah, ils étaient tout prêts,
ils
c'est
ça. Ils sont trop prêts, c'est ça. Et c'est ça. Et donc, du coup, on aurait eu des retombées et notre paradis aurait été perdu. Alors, maintenant, est-ce que quelqu'un se rappelle qui a dirigé notre pays?
C'est super dur à dire, maître.
Zitek?
Ah oui, c'était le Hochmeister
qui dirigeait toute l'armée. Et qui est-ce qui dirigeait le pays pendant ce temps? Alors,
c'est un nom compliqué encore.
Heydrich. Qui dirigeait le nouvel ordre teutonique.
Ah.
Qui avait pris la suite des SS de Himmler, qui ont été détruits.
C'est compliqué toute cette histoire.
Vous avez paralysé les enfants. Ah. Et donc les enfants, pourquoi est-ce qu'on a créé le bloc 109?
Pour tous vivre heureux et en paix.
Oui, parce que les...
Dans la joie, l'harmonie.
Exactement, parce que les méchants russes, ils nous ont envoyé quoi?
Des ours géants.
Des ours géants, exactement. Ils ont envoyé quoi d'autre encore?
Des transformers.
Et quoi? Qu'est-ce que c'est?
Oui, des sortes de trucs qui avaient des tout en métal et qui attaquaient.
Et donc les enfants, nous sommes allés dans le bloc 109 pour éviter de perdre contre les Russes. Pourquoi? Parce que les Russes sont venus avec donc toutes les machines que vous avez citées avant, sont venus avec leur espèce de sibérien, leur gros ours, et ils ont aussi amené des monstres, des choses horribles qui vivaient dans le noir et qui ont commencé à décimer notre chère armée. Et donc nous nous sommes réfugiés dans le bloc 109 pour être en dehors de tout ça et pour laisser le temps à notre armée de finir de combattre l'armée rouge et que nous puissions reconstruire un monde nouveau. Et aujourd'hui, nous vivons tous en paix dans le bloc 109, en espérant que le monde de demain sera meilleur. Enzo, Ryan, arrêtez de vous battre. Enzo, allez, c'est
parti. Ouais, mais c'est lui qui cherche aussi. Ici, c'est le camp des brins, alors t'as rien à faire ici, va-t'en.
Et donc, nous allons parler de bloc 109, donc de Brinsan-Brujas et de Ronan Touloua.
Donc Brinsan, c'est son prénom, c'est original.
De quoi?
T'as dit Brinsan, c'est original.
Vincent.
Ah,
Vincent,
pardon.
Brujas et de Ronan Touloua.
Touloua.
Ouais, écoute.
Touloua.
S'il n'est pas breton et qu'il t'entend, peut-être qu'il descendra venir te mettre un coup de tête. Tu vois.
Ouais.
Donc c'est leur premier album à tous les deux. Première collaboration qui est parue donc chez Akileos.
C'est-à-dire qu'ils ont fait ils n'avaient jamais fait de BD avant, ces deux mecs.
Ils sont que Bloc 109 à leur actif, tous les deux. Ils ont eu plusieurs projets, en fait, mais aucun n'a été édité, visiblement. Et ils se connaissent depuis fort longtemps, parce qu'ils se connaissent depuis le lycée.
D'accord. C'est super ambitieux pour un premier projet.
un univers totalement uchronique, ça reste que, enfin, ambitieux, oui, mais pour, en même temps, l'uchronite, quand même, te laisse pas mal de liberté.
Non, mais je dis ambitieux quand je vois ce qui est noté à la fin, mais tu en reparleras sans doute tout à l'heure, vis-à-vis de l'univers, du développement de l'univers, tous les autres BD que vous allez voir autour.
Oui, oui.
Oui, donc, qui se connaissait
plus. Un univers totalement uchronique, dans lequel on a un Hitler qui a été donc tué en 1941. Tous les ténors en fait de l'Allemagne nazie ont été pendus ou se sont suicidés dans les jours qui ont suivi. Et finalement, c'est Himmler qui a, avec Heydrich, qui ont commencé à gouverner donc le Troisième Reich. Troisième Reich qui a ensuite réussi à gagner la guerre grâce à la bombe nucléaire qu'il a envoyée donc sur les États-Unis,
ouais,
sur l'Angleterre, sur le Canada, ce qui fait que donc à l'Ouest il n'y a plus rien. Et la seule chose finalement qui reste comme adversaire possible pour l'Allemagne, c'est donc l'URSS. Et donc l'Allemagne va lancer l'opération Barbarossa pour essayer de détruire Staline. Mais exactement comme dans la vraie histoire, ça ne se passe pas si bien que ça. Et en 1953, donc presque 8 ans après la fin de la guerre côté ouest, on se retrouve avec une guerre avec les Russes, et les Russes sont en train de prendre l'avantage sur le Reich.
Ok.
Après, donc, au niveau du dessin, on a eu un dessin qui est assez intéressant de la part de Ronan Toulouat, qui a essayé en fait au départ de... c'est lui qui le dit dans une interview, il a voulu essayer de faire donc, que du noir et blanc à la Mignola, mais c'était un peu trop compliqué pour lui, et il dit de lui-même qu'il n'avait pas son talent. Alors du coup, ils sont passés sur les tons un peu sépia, avec des niveaux de gris qui sont assez intéressants, parce que ça lui donne de suite, je trouve, un caractère très, très gris, très terne, très sombre à cette bataille, parce que finalement, ce n'est qu'un récit de guerre, et les seules petites touches de couleur, ben, en fait, c'est le sang ou les drapeaux nazis.
C'est marrant, mais j'avais pensé à Mignola un peu sur le dessin.
Bah écoute, ça lui fera plaisir. Il avait voulu faire du Mignola au début, et puis finalement il était revenu parce qu'il a dit ouais, c'est un peu trop complexe.
Moi, le dessin, je l'ai trouvé super, assez confus. J'ai eu du mal à repérer qui était quel personnage, efficace dans la narration, dans le rythme, mais vachement perdu dans les personnages.
Il y a beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a un rythme de folie. Mais vraiment de folie, parce qu'on parcourt, je sais pas combien il y a de pages sur ce tome-là, sur le premier.
Presque 200 pages.
Presque 200 pages. Il y a 200 pages. C'est un rythme de malade, parce qu'on n'arrête pas de changer le groupe qu'on est en train de suivre. Soit on a des groupes qui sont en plein combat, et très honnêtement, je trouve que l'aspect des fois confus du dessin rajoute un petit peu au combat.
Ouais, ça rajoute à l'ambiance, mais on y perd dans la clarté du récit. Quoi.
Dans la clarté du récit, c'est clair qu'il aurait peut-être fallu faire quelque chose.
Moi, je sais que au départ, mais j'étais largué. Il a fallu que j'arrive à la moitié du bouquin quand on commence à avoir un peu des révélations, parce que ça y va dans les révélations quand on arrive vers la fin. Pour réussir à me dire, ah oui, donc lui, c'est machin qui machin, etc. J'ai eu vraiment du mal à accrocher les wagons.
C'est exact. Là, je te l'accorde, au niveau des personnages, c'est un petit peu difficile à suivre, surtout que tu passes d'un groupe à l'autre quasiment sans aucune transition. On retrouve le même problème qu'on a eu sur Blue Estate, ce qu'on disait,
ouais,
ou sur Le Temps de Vivre. Finalement, tiens, on a une sorte de...
Oh, on a une thématique.
On a une thématique, la confusion.
Ouais, bah, ça sera peut-être dans le titre, on va trouver.
Après, au niveau de l'Uchronie, j'ai trouvé que rien de neuf sous le soleil, hein, au niveau de l'Uchronie, on a un petit peu changé l'histoire. On se retrouve presque dans le grand jeu. Qui est de chez Delcourt, où là aussi les Allemands, on n'est pas certain que tout se soit passé comme c'est écrit dans l'histoire, et on a d'autres pistes qui s'ouvrent au fur et à mesure.
On en reparlera plus tard, parce que je ne l'ai pas encore lu. Ça.
Voilà, peut-être ce sera l'objet d'une prochaine émission. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir différentes histoires, parce qu'on a donc le premier tome, Bloc 109, qui est sorti en 2010 pour le premier tome, et il y a plusieurs autres tomes qui sont confirmés.
Il y en a qui sont sortis déjà.
Alors Étoile Rouge et Soleil de Plomb sont sortis, New York 1947 est sorti aussi, et il n'y a que le dernier tome qui n'est pas encore paru, qui est Iter Germania.
Ok.
Étoile Rouge, c'est donc l'histoire d'une escadrille de Français, le Normandie, j'ai plus le nom en tête, Normandie quelque chose. Opération Soleil de Plomb, ça se passe donc sur la guerre en Afrique.
Ouais.
Et New York 1947, justement, c'est le moment où les Allemands envoie la bombe nucléaire du côté des États-Unis.
Moi, ouais, j'ai trouvé ouais, j'ai, le mot pour le scénario, j'ai mis riche, parce que je trouve que c'est vraiment très très riche. Il y a beaucoup de choses, etc. autour. Et donc, ils ont décidé d'utiliser ce tome Bloc 109 comme terreau de base pour d'autres histoires autour. Qui vont aller chercher. Est-ce que ça va être des suites ou est-ce que ça va être des trucs parallèles à chaque
c'est,
fois?
C'est des choses parallèles pour le. Pour, là, je vais y arriver. Pour ouais. Soleil Rouge, c'est un parallèle. Pour Soleil de Plomb, on retrouve des personnages qu'on a déjà vus.
Ouais.
Pour New York, je crois qu'on n'en retrouve pas. Je n'ai pas, j'ai pas ouais. encore lu sur New York, ni Soleil de Plomb. C'est dans ma liste de Noël, ça devrait arriver. Ah. J'ai juste fait les renseignements pour essayer, et sans trop non plus en lire, pour ne pas me spoiler ouais. moi-même mes propres histoires que je suis en train de lire.
D'accord.
Mais visiblement, il y aura des parallèles et il y aura des suites.
D'accord. Donc oui, il y aura quelque chose qui racontera ce qui se passe après, comment ça se passe dans le bloc 109. On ne révèle pas trop.
Je pense que ce qui se passera dans le bloc 109, ce sera dans le dernier, dans Iter Germania, qui doit sortir en 2012.
D'accord. Voilà. Donc vous l'avez vu, hein, bloc 109, c'est le patron révélé. C'est un des points de la fin du bouquin. On vous explique pas comment ça arrive, qui gère quoi, qui fait quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de surprises sur la fin. J'ai trouvé la chute superbe. Très joli.
Après, ça peut être aussi très mal perçu, dans le sens où on peut avoir tellement c'est rapide, tellement c'est haché, peut-être un scénario qui peut paraître vraiment confus à certains, qui peut ne pas plaire. Je pense que ouais. c'est vraiment le bouquin où on peut avoir on peut avoir qu'un avis extrême en fait.
Ouais.
Soit.
Ah oui, je suis entre les deux, tu vois. Pas de bol.
Ah non, franchement, je pense pas. Soit ça te plaît parce que du coup tu es rentré dedans, soit tu trouves ça assez déplaisant parce que ça va trop vite. Et
moi j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans, mais c'est vrai qu'une fois que je suis rentré dedans, ça a été quoi. Mais enfin j'ai trouvé l'histoire super sympa, bien menée. Mais tu vois, c'est le genre de bouquin, tu te dis, hey, finalement, il faudrait peut-être que je relise le début parce que j'ai peut-être raté des trucs parce que bah, c'est cette confusion dans le dessin entre les personnages qui est vraiment dommage. Ils sont pas assez. On voit qu'il a essayé le dessinateur. Genre, il y en a un qui a son casque avec un truc rouge dessus. Il y en a un qui a toujours sa casquette. Mais c'est toujours un détail vestimentaire. Et puis tu vas rencontrer d'autres personnages avec des casquettes. Et tu sais jamais trop qui tu suis, qui est qui. Surtout que bon, bah moi je sais que les noms allemands, hein, c'est comme les noms japonais. Je les retiens pas.
Ouais.
Donc c'est pas évident.
Bah, tu devrais avoir quand tu iras à Angoulême. Tu devrais normalement avoir une mini-série que devrait présenté normalement Renan Toulois sûrement sur Bloc 109 qui décrit normalement pour Angoulême cette année.
Oh, bah j'irai voir ça, je te rapporterai.
Puis après, ils ont fait pas mal de choses au niveau de Facebook, au niveau de. Ils ont fait une sorte de gros buzz autour, quoi.
D'accord.
Avec plein de petites choses.
Tu m'enverras les liens, je les mettrai sur l'article du site. Voilà.
Enfin, en tout cas, une série bien, moi qui m'intéressait, parce que bah, j'aime beaucoup l'histoire, et du coup, forcément, je me suis dit, faut que je l'achète. Et c'est pas mal du tout. Maintenant, il faut que ça plaise.
Oui, bah c'est comme tout. Ok, bah merci pour cette splash page. Hors sujet.
Et maintenant, hors sujet, de quoi vas-tu nous parler, Pied-Pied ?
Je vais vous parler du site Chez Albert. Le site Chez Albert, c'est un site bien de chez nous, un site de journalistes marseillais qui veulent... T'as vu, je fais l'accent pas trop mal pour une fois. D'habitude, je l'exagère trop, mais je commence à avoir l'habitude.
Tu fais juste l'accent, c'est qui m'agace quand je le vois dans la publicité. C'est « Oh, bonjour,
bonne mère,
nous allons vous vendre de la lessive au savon de Marseille !» Et là, tu te dis mais vous savez qu'il n'y a personne qui parle avec un accent comme ça à Marseille, ça n'existe pas.
Ils sont tous morts, ceux qui parlent comme ça.
Non, ils n'ont jamais existé, ceux qui parlent comme
bon,
ça.
Bon, quoi qu'il en soit, t'as vu, j'ai plus envie de dire bref, maintenant je dis quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit.
Bref, l'accent marseillais mal refait. Chez Albert,
c'est journalistes qui font donc un site qui parle de choses culturelles, de... autour de Marseille, politique, culture, etc. Enfin, très intéressant si on est dans le coin. Mais pas que, car ils ont lancé un petit podcast qui s'appelle Antipop, avec des gens sympathiques, dont Yann Valéani. Attends, pardon, je le fais local. Yann Valéani. C'est dur quand on a vécu en Corse d'éviter.
Valéani.
Ouais. Donc, toi, tu fais l'accent pareil de Corse.
Ah, t'as
donc,
vu, voilà, c'est ça.
Donc,
Yann
Valéani, qu'on avait pu voir dans. Geek le magazine, il faisait la petite série Feel Good en BD derrière. Donc le mec, j'aime beaucoup ce qu'il fait en dessin. Et avec Yazoo, avec qui il bossait d'ailleurs aussi sur Feel Good, et aussi apparemment un libraire de chez Album à Marseille, etc. Et ils sont un podcast.
Il n'y a plus d'Album à Marseille. Ah ouais. Alors, un ancien libraire de chez Album de Marseille qui n'existe plus.
Ouais, c'est possible. Quoi qu'il en soit...
Quoi qu'il en soit, bref.
Quoi qu'il en soit, j'essaye de faire une rubrique. Et donc, ce qui se passe, c'est que ils parlent culture. Donc, dans leur dernière émission que j'ai écoutée, ils commencent en parlant du jeu vidéo Magic. Ils enchaînent en parlant BD. Ils parlent pas mal de BD et de divers autres sujets. Et surtout, ils se sont fait un gros délire qu'ils vont essayer de réitérer de temps en temps. C'est qu'ils ont fait un épisode qui est le procès de Frank Miller. C'est-à-dire que suite aux allégations de Frank Miller vis-à-vis des indignés de Wall Street, en gros, il les a un peu traités de cons, etc. Enfin, il a eu des bonnes remarques bien de droite fascisantes, comme il en est capable en ce moment. Mais ils se sont dit, merde.
Toi, tu m'as procé sur le dos, toi.
Miller, coupable ou pas coupable ?
Ça m'a fait un peu penser au...
Réquisitoire.
Réquisitoire avec des proches, tout ouais, ça. C'était,
ça m'a fait penser à ça aussi.
Je pense que pour eux, la référence aussi est claire.
Et donc, ils se sont fait un petit reportage de 45 minutes quand même, où il s'est présenté comme un procès. Il y a des accusés qui sont présents. Ils invitent à la barre des personnes pour témoigner. Donc, il y a un fan de Batman, il y a Will Eisner, il y a Batman lui-même qui arrive un peu plus tard. Et ils donnent leur avis sur Frank Miller, à savoir, c'est doit-on juger... l'homme à son œuvre passée ou à ses propos actuels. Donc quelque chose de super intéressant, super bien fait, super drôle surtout. Moi j'ai adoré. Ils demandent bien sûr, parce que ce sont les jurés qui doivent décider, d'aller voter sur leur site, de laisser un commentaire et les 12 premiers qui répondront seront le panel représentatif pour dire si Miller est coupable ou non coupable. Petit défaut de ce podcast, pour le moment, il n'est pas disponible en flux RSS ni sur iTunes. Donc si vous voulez écouter ça avec, avec vos petits appareils genre smartphone, iPod, baladeur et compagnie, c'est un peu la galère. Il faut le télécharger à la main pour pouvoir le lire en mobilité ou bien alors l'écouter avec le player qu'il y a sur le site. Ils y travaillent apparemment, ils veulent aussi le chapitrer. Je ne suis pas sûr que techniquement ce soit super facile, mais... on verra, et surtout super compatible avec tous les appareils. Mais déjà, rien que le flux RSS avec le fichier dedans, ça serait trop bien, parce que leur podcast est vraiment de qualité, ça vaut le coup.
Ouais.
Antipop, et c'est chez Albert. Nous allons pouvoir nous laisser ici, vous dire au revoir et à bientôt.
Vous souhaitez un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que le petit Papa Noël vous a amené plein de bons cadeaux que peut-être vous aurez mis sur la liste en écoutant le One Eye Club.
Et si vous avez des trucs à nous suggérer, des améliorations, vous avez tous les moyens de communication à votre disposition, que sont les commentaires iTunes, Twitter, les commentaires du blog, Facebook, la page Google+, dans la foulée. On vous dit à dans 15 jours et bonne lecture de BD. Ciao.
Ciao, bonne année.